Prenons nos Bibles et regardons ensemble dans l'Évangile selon Jean et le chapitre 8. Nous poursuivons notre étude dans ce chapitre. Et aujourd'hui, je voudrais lire à partir du verset 47 jusqu'à la fin du chapitre. Et j'ai intitulé cette étude de 4 questions d'accusation. Ici, il s'agit des gens qui confrontaient notre Seigneur Jésus. Imaginons que dans un procès, le défendant questionne ou bien accuse le juge. Voilà ce que nous avons ici. Nous avons Christ qui est Dieu dans la chair et qui se déclare comme Dieu dans la chair, mais nous voyons ces hommes religieux qui s'opposent à sa doctrine, s'opposent à sa personne, et cela par des questions. Je trouve, même dans nos ministères aujourd'hui, lorsque nous annonçons le Seigneur Jésus-Christ tel qu'il est dans les Écritures, ceux qui pose des questions, il y en a qui posent des questions pour comprendre. Et c'est évident, je pense l'unique, l'Éthiopien à qui Dieu a envoyé Philippe est arrivé là, il avait des questions au sujet des Écritures qu'il lisait. Cela démontre une œuvre de l'Esprit déjà dans le cœur. Mais lorsque les gens se lèvent pour poser des questions, pas dans le but de comprendre, mais plutôt pour contredire ce que dit la parole. Et quand je dis la parole, je parle de Christ lui-même qui est la parole. À travers les questions, on peut savoir l'état du cœur. Parce que la Bible dit que c'est du cœur que la bouche parle. Nous ne pouvons pas savoir ce que les hommes pensent, mais dès qu'ils commencent à parler, dès qu'ils ouvrent leur bouche, on peut savoir, parce qu'à travers leurs questions, même si ces questions sont voilées et couvrent peut-être de mobiles cachés dans leur cœur, à travers leurs questions, nous pouvons savoir de quel esprit ils sont. Alors, lorsque je lis ici, dans Jean 8, à partir du verset 47, voyons les questions. Il y en a 4 ici, qui démontrent l'état du cœur, et voyons les réponses que Christ leur donne. Ils ont déjà accusé notre Seigneur d'être un menteur, disant que lui et le Père, ils étaient un. Et remontant jusqu'au verset 45, il dit, « Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. » Donc, il s'adresse déjà à eux comme des incrédules, en réalité comme des inconvertis. Et si vous voulez faire fâcher des gens, il suffit de leur dire qu'ils sont encore dans les ténèbres. Ceux qui croient qu'ils sont déjà convertis, ou bien qui croient qu'ils sont déjà enfants de Dieu, pourtant ils s'opposent à la vérité. On ne peut pas se dire enfant de Dieu et s'opposer à la vérité. Alors, Christ met son doigt directement sur leur cœur d'incrédulité en disant, moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Et je dis ça souvent. Nous n'avons pas besoin d'aller nous asseoir avec chaque un pour poser des questions, faire des enquêtes pour savoir s'ils sont enfants de Dieu. Il suffit de dire la vérité concernant Christ. Dire qui il est. Il suffit de dire pourquoi il est venu dans ce monde, selon la Bible. Et qu'est-ce qu'il a accompli par sa mission, par sa vie, par sa mort? Et pour qui il a fait cela? Et où il est maintenant? Ces cinq questions, pour moi, continuent à être de bonnes questions à poser aux gens. Et nous pouvons savoir leur état par leur réponse. Parce que si nous présentons la vérité aux gens telle que se révélée ici dans les Écritures, nous pouvons, par leur réaction, savoir s'ils sont de Christ ou non. Alors, il leur pose la question, verset 46. Qui de vous me convaincra du péché? Ils étaient en train de traiter Christ de menteur. Pourtant, Christ leur a déjà dit dans le verset 44, vous avez pour père le diable. Le sens du mot diable, là, c'est quelqu'un qui trahit des gens et les amène à la condamnation. Et vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Depuis sa chute, avant même la création du monde, le diable, Lucifer, Satan, son but était de remplacer, de renverser Christ et prendre lui-même cette place. Et depuis sa chute, c'est toujours comme ça. Nous pouvons voir le diable à l'œuvre, surtout dans la religion, parce que la plupart de ceux qui sont adeptes aujourd'hui, même au christianisme, ils disent qu'ils sont chrétiens, pourtant ils ont une vue d'eux-mêmes ou bien de leur salut comme si c'est une coopération. Oui, que Christ a fait sa part, mais moi aussi, j'ai fait ma part en prenant ma décision. Et ceux qui raisonnent comme ça sont du même esprit du diable. Et ils veulent accomplir les désirs de leur père, c'est-à-dire partager la gloire, avoir une petite partie même de la gloire et garder ça pour eux. C'est ça qui démontre qui est leur père. Et Christ leur a dit, il a été meurtrier dès le commencement. Et il continue à être meurtrier, pas nécessairement dans le sens physique, mais spirituellement. Parce que ce sont des âmes qui sont maintenant condamnées en suivant ces détournements. Il a été meurtrier dès le commencement. C'est comme ça qu'il a détourné Adam et Ève au départ. Et ça a chuté toute l'humanité maintenant dans la mort. Une mort spirituelle. Et il dit, il ne se tient pas dans la vérité. Les ténèbres ne peuvent pas habiter ensemble avec la lumière. Plutôt, c'est la lumière qui chasse les ténèbres, lorsque le soleil se lève le matin, la nuit s'enfuit. Et c'est le soleil qui brille. Alors le diable ne se tient pas dans la vérité. Le diable ne peut même pas se tenir devant la vérité. Christ est la vérité. C'est lui la lumière. Donc, même le diable ne peut pas se tenir devant Christ qui est la vérité. Mais, aussi, le mensonge ne peut pas cohabiter avec la vérité. Donc, il est en train de leur dire ici qu'ils sont encore dans le mensonge. Ils accusaient le Seigneur Jésus d'être menteur, pourtant, eux-mêmes, ils étaient dans le mensonge. Il dit parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Comme il n'y a pas de vérité dans le diable, il n'y a pas de vérité en ceux qui sont de cette postérité de Satan, comme nous avons vu la dernière fois. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond. Voilà encore une clé à comprendre lorsque les gens parlent, de qui ils parlent. Parce que s'ils ont coupé le diable, ils vont parler comme lui de leur propre fond. Le jeu si vous voulez. Leur phrase commence toujours avec « je » ou bien « moi » et non pas avec « Dieu » et « Christ ». La gloire revient toujours à Christ en ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Mais il parle de son propre fond. Pourquoi? Car il est menteur et le père du mensonge. Et ceux qui sont de sa postérité le ressemblent en cela. Les gens aujourd'hui qui font une idée de Dieu, mais qui ne lui donnent pas la gloire en tant que Dieu, ils sont des menteurs. Ils mentent sur Dieu et ils mentent devant les hommes parce qu'ils sont de leur père, qui est le père du mensonge. Alors, est-ce que c'est important ce que les gens confessent et ce qu'ils disent? Oui, parce qu'encore, c'est du cœur que la bouche parle, que les paroles sortent du cœur. C'est pourquoi les investigateurs, quand ils sont en train de chercher un coupable, ils arrivent et ils commencent à poser beaucoup de questions. Et c'est à travers les réponses, peut-être que, au départ, celui qui a commis le crime ne va pas confesser, oui, c'est moi le coupable, mais à travers les questions faites sortir de leur bouche ce qu'ils cachent au cœur. Et c'est ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit, fait ici dans ce passage, verset 46, qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Christ est en train de poser cette question, pas parce qu'il ne savait pas la réponse, mais c'est une question pour faire réfléchir cela concernant leur état de péché et de condamnation. Verset 47, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Alors ça, c'est déjà un point très important. Comme nous avons vu que où il y a l'esprit antichrist dans le cœur, cela va sortir à travers ce que les gens disent. En contraste, verset 47, celui qui est de Dieu, comment on peut reconnaître cela? C'est écrit, ils écoutent les paroles de Dieu. Notez la différence. Celui qui est enseigné par l'Esprit de Dieu, sa bouche est fermée. Il se condamne d'ailleurs lui-même à travers ce que la vérité dit de lui. Et c'est écrit là, il écoute les paroles de Dieu. On ne peut pas être en train de parler et puis en même temps écouter. Et lorsqu'on est en train d'écouter, on n'est pas en train de parler ou bien de répondre ou bien contredire. Quand je prêche, j'apprécie ceux qui, après la prédication, sont dans le silence. Parce qu'ils sont en train de réfléchir sur la parole de Dieu. Et je dois dire que c'est un point même pour moi, parce que je suis responsable de me lever devant les hommes et de prêcher. Donc, il semble que c'est moi qui suis toujours en train de parler, mais je dois dire que en dehors de la prédication, comme je fais maintenant, je passe des heures dans le silence devant Dieu et devant cette parole en réfléchissant, en préparant le message que j'ai à annoncer. Et toujours est-il que c'est mieux de dire peu que de dire beaucoup, imaginant que en multipliant les paroles, nous sommes en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc ce qui importe, même dans nos prédications, c'est comme je fais ici, c'est de poursuivre la parole et lire la parole, écouter la parole et réfléchir sur la parole. C'est ce que Christ dit, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Avant d'ouvrir la bouche pour répondent comme des gens aiment faire dans les études bibliques, soi-disant études bibliques, ils se réunissent et puis chacun a quelque chose à partager, à dire. Mais ils partagent l'ignorance parce que leur intérêt souvent n'est pas la parole, mais c'est de se faire entendre devant les autres. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Quand il s'agit des paroles de Dieu au pluriel, il s'agit de tout ce qui est écrit. Ici, dans les Écritures, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ce sont les paroles de Dieu. Mais ces paroles de Dieu concernent la parole de Dieu, qui est Christ. Alors c'est lui que nous devons voir à travers les Écritures. Mais il les condamne, verset 47 de Jean 8, en disant, vous n'écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. On peut se demander, mais pourquoi les gens n'écoutent pas? Parce que pour nous, c'est si clair ce qui est écrit ici. Pourtant, les gens préfèrent suivre leurs propres intérêts. Mais Christ dit ici, ils font cela parce qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est tout simple. C'est Christ qui donne cette réponse. Maintenant, dans le verset 48, à partir du verset 48 jusqu'au verset 59 de Jean 8, nous voyons maintenant ces quatre questions d'accusation. C'est-à-dire tout ce que Christ vient de dire d'eux ici, qu'ils n'écoutent pas, qu'ils ont toujours quelque chose à dire pour répondre. Arrivé au verset 48, voyons la première phrase là, les Juifs lui répondirent. Et voilà ce qui les condamne. Parce qu'au lieu de se soumettre, écouter, d'aller réfléchir ce que Christ vient de dire, ils ont quelque chose à dire. C'est comme en élevant nos enfants. Comment est-ce que nous savons qu'ils ont vraiment écouté nos instructions? C'est lorsqu'ils écoutent et ils se soumettent à ces instructions. Mais si l'enfant est toujours en train de répondre et repousser, cela dit que la parole n'est pas encore entrée dans leur esprit, dans leur cœur. Donc voilà maintenant la première question. Parce que, je disais au départ, il y a quatre questions d'accusation ici dans ce passage. Et en voici la première. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu as un démon? Donc, la manière que cette question est posée, ce n'est pas pour connaître qui est Christ, mais c'est d'accuser Christ d'être contraire à ce qu'il pense. Et il accuse ici d'être un Samaritain et même un démon. Les Juifs et les Samaritains ne s'attendaient pas. Pourtant, ils occupaient le même pays, sauf un département au centre du pays d'Israël. Au sud, il y avait la Judée, au centre, la Samarie, et puis au nord, la Galilée. Mais dans l'histoire, les Samaritains occupaient autrefois le pays, ou bien la partie du pays qui était de la tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé. Et la capitale du pays était Samaria. Donc, le département prenait ce nom-là. Et autrefois, c'était une grande ville. Quand les 10 tribus dans l'Ancien Testament ont été emmenées en captivité en Assyrie, le roi d'Assyrie a envoyé des gens de plusieurs parts pour habiter la Samarie. Tout cela, vous pouvez lire dans le livre de Deuxième Roi et le chapitre 17 et le verset 24. C'est-à-dire d'entre mariés, entre avec ceux qui restaient. Les 10 tribus ont été emmenées en captivité en Assyrie. Et puis ceux qui sont restés dans le pays, le roi a envoyé des gens de la Syrie pour aller s'installer et se marier avec le reste. Donc, c'est ça qui a fait la différence entre ceux qui étaient du sud du pays, c'est-à-dire la Judée, et du nord, la Galilée. Ceux-là se considéraient comme des Juifs purs, qui ne se sont pas entremariés avec ces Assyriens. Et donc, de dire à quelqu'un, comme ils disent ici du Christ, tu es un Samaritain, et que tu es, ou tu as un démon. Cela est pour accuser Christ de dire, d'être quelqu'un d'impur. Christ lui-même posait la question, dans le verset 46, qui de vous me convaincra de péché? Pourtant, il accusait d'être, en quelque sorte, on peut dire, d'une race mixte. C'est une manière de parler de lui. Donc, cela démontre déjà, par cette question d'accusation, cette première question d'accusation, qu'il ne cherchait pas à donner Christ la gloire qui lui était due. C'est comme aujourd'hui, il y en a, et je dis ça vraiment avec beaucoup de questions concernant des gens qui se disent prédicateurs de la grâce ici aux États-Unis, mais qui disent que le Seigneur Jésus-Christ, en venant pour être le sacrifice pour le péché de son peuple, qu'il est devenu lui-même le péché. C'est-à-dire, Dieu l'a rendu pécheur à la croix, en portant le péché de son peuple. Et nous savons que cela est contraire à tout ce que nous lisons dans les Écritures. Bien vrai, il est venu pour porter le péché de son peuple, mais il n'est pas devenu lui-même péché. Il n'est pas devenu lui-même un pécheur en portant ce péché. Pourtant, ils n'ont pas honte de déclarer cela, que c'était nécessaire qu'il devienne comme nous, afin que nous devenions comme lui. Voilà comment ils raisonnent. Je dois dire que toute position contraire à ce qui est révélé dans les Écritures ici est une accusation du Christ qui provient d'un cœur qui est toujours dans les ténèbres et toujours inconverti. C'est pourquoi dans le verset 49, Jésus répliqua, « Je n'ai point de démon. » Mais j'honore mon Père et vous m'outragez. Je n'ai point de démon. Je dois dire que si nous nous levons pour prêcher le Seigneur Jésus-Christ dans toute sa gloire, les gens vont réagir de la même manière. D'ailleurs, même ils vont dire que vous avez un démon. C'est parce qu'il ne peut pas mettre leurs mains encore sur Christ, parce qu'il est venu une fois porter le péché de son peuple et ressuscité et maintenant monté au ciel où personne ne peut plus le toucher. Mais nous qui sommes encore sur cette terre et nous représentons le Seigneur Jésus-Christ par nos vies et même dans nos témoignages et dans la prédication, si Dieu nous donne ces occasions de prêcher, il faut savoir que nous allons subir la même haine. Christ lui-même a dit ça. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr. Et pourquoi est-ce que les gens détestent ce Christ-là? Même nous accusons d'être contre Dieu, parce que nous prêchons un Christ qui reçoit toute la gloire, comme il dit ici, j'honore mon Père, et vous m'outragez. Voilà le point. Les hommes pécheurs ne veulent pas que toute la gloire revienne au Père à travers son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Si vous prêchez un Jésus qui est entre les mains des hommes, les gens vont vous accepter. Parce qu'en prêchant cela, ça leur donne un sens d'avoir un pouvoir. Oui, Dieu a fait tout ce qu'il peut pour notre salut, mais maintenant la décision finale reste avec vous. Voilà ce que les gens aiment entendre. Je dois dire que vous n'aurez pas d'ennemis en prêchant de cette manière. Mais prêchez un Christ souverain. Prêchez un Dieu qui sauve qui il veut. Prêchez que Christ n'est pas venu sauver tous les êtres humains, mais sauver ceux que le Père lui a donné depuis l'éternité. Et vous aurez cette même réaction. Mais et ils vont vous accuser d'être quelqu'un qui trouble les gens ou bien divise. Voilà encore une accusation que je reçois souvent, mais vous divisez des chrétiens, parce que d'autres ne croient pas comme vous prêchez, alors il faut trouver un autre moyen de prêcher pour que nous nous attendons. C'est pas la manière de Christ. Il ne cherche pas ici à gagner la faveur de ses accusateurs. Au contraire, il leur dit clairement, vous m'outragez. Pourquoi? Parce qu'il honore son Père. Et nous aurons les mêmes outrance face aux hommes à qui nous prêchons. Et il dit ça dans le verset 50. Il continue, « Je ne cherche point ma gloire. Il en est un qui la cherche et qui juge. » Alors, qu'est-ce qui fait l'opposition des hommes contre Christ? C'est parce que les hommes cherchent leur propre gloire et non pas la gloire de Christ. Et Christ n'avait qu'un seul but, c'était de glorifier son Père, faire tout ce que le Père lui a envoyé faire, satisfaire à la loi et la justice de Dieu le Père, afin que Dieu soit juste tout en justifiant ceux pour qui Christ est mort. Alors il dit, verset 51, en vérité, je vous le dis. Voilà ce qui importe. C'est pas ce que les hommes disent, mais qu'est-ce que Christ a à dire à ce sujet? Je vous le dis. Si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si quelqu'un garde ma parole. Encore, ce n'est pas une condition pour dire, ah, mais il faut que je garde sa parole afin que j'aie la vie éternelle. Et c'est le contraire. Ceux qui ont la vie éternelle et qui ne verront jamais la mort, ils démontrent qu'ils ont déjà la vie éternelle parce qu'ils gardent toujours sa parole. Garder la parole est dans ce sens-là que c'est la parole qui nous garde. Nous persévérons parce que nous sommes préservés par la grâce de Dieu. Et donc, c'est pourquoi nous continuons dans cette parole. Et la fin de tout cela, c'est que nous ne verrons jamais la mort. Dans la Bible, il y a trois différentes morts que nous voyons. Il y a la mort physique. Et ici, quand il dit « il ne verra jamais la mort », ce n'est pas en train de parler de la mort physique, parce que ceux qui sont enfants de Dieu meurent physiquement. Il y a un temps où Dieu nous a placés sur cette terre et nous vivons exactement les jours qui nous sont prédestinés, ordonnés, et puis nous mourrons physiquement. Donc il n'y a aucune promesse dans la Bible que si nous sommes à Christ, nous n'allons jamais mourir physiquement. Je suis présentement en train de mourir physiquement. Quand je me vois à travers le miroir maintenant, je vois un homme qui vieillit. Quand je me lève le matin, je n'ai plus l'énergie que j'avais lorsque j'étais encore plus jeune. Tout cela, ce sont des évidences que, avec l'avancement de l'âge, je suis en train de mourir. Mais je ne trouve pas dans cela une raison de m'inquiéter alors que je ne suis pas enfant de Dieu parce que je suis en train de mourir. Non. Nous devons mourir physiquement. Mais c'est comme Christ a dit à Marc dans Jean chapitre 11 et le verset 25. Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » C'est-à-dire mort physiquement, mais c'est comme si on s'endort et puis on se réveille immédiatement de l'autre côté. C'est la mort physique, c'est la mort du corps. Mais l'âme continue à vivre. Voilà l'espérance de ceux qui sont à Christ et pour Christ, pour qui Christ est venu sauver. Celui-là ne verra jamais la mort. Je disais qu'il y a trois différentes morts. Il y a la mort physique, puis il y a la mort spirituelle. Et nous sommes tous nés dans ce monde morts spirituellement. Mais lorsque l'Esprit de Dieu nous est donné, nous revivons, c'est-à-dire nous sommes rendus à la vie spirituelle. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui devient maintenant notre vie spirituelle. C'est pourquoi nous pouvons maintenant écouter la parole et nous pouvons entendre la voix de Christ, pas d'une manière audible, mais à travers sa parole. Que nous avons maintenant cet attachement à lui, cela provient de l'Esprit de Dieu et c'est là une vie spirituelle par rapport à une mort spirituelle. Pourquoi les gens n'entendent pas cet évangile? Pourquoi les gens s'opposent? C'est parce qu'ils sont encore morts spirituellement. Mais celui qui garde ma parole, Christ dit, ne verra jamais la mort. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Christ les a déjà amenés de la mort à la vie. Ça, c'est une œuvre de la grâce de Dieu en Christ. Par exemple, dans Jean chapitre 5, nous avons déjà vu cela. Et le verset 24, Christ a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, ici, garde ma parole. Quelqu'un qui garde sa parole écoute sa parole. C'est-à-dire, la capacité d'écouter, d'entendre, lui est donnée par l'Esprit de Dieu. Et cela est écrit dans Jean 5, 24. Je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé. Donc, l'ordre est très important. On ne peut pas croire avant d'entendre. Et l'entendement vient de l'Esprit de Dieu, parce que c'est écrit ici, celui qui écoute et qui croit a la vie éternelle. Ça ne dit pas aura la vie éternelle, mais a la vie éternelle. Pourquoi il a la vie éternelle? Parce qu'il est déjà passé, comme c'est écrit, à la fin de ce verset, il a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Parce que le jugement a déjà été porté au calvaire, à la croix, par Christ. Dieu ne va pas juger Christ comme le substitut et puis, en retour, juger aussi ceux pour qui il est mort. Le jugement est passé. Et c'est pourquoi ceux pour qui Christ a porté ce jugement, c'est écrit ici, il est passé déjà de la mort à la vie. Passé de quelle mort? La mort de spirituelle à la vie spirituelle. Et c'est pourquoi Christ dit ici, dans notre texte, verset 51, si quelqu'un garde ma parole, garder dans le sens d'avoir écouté, avoir reçu cet esprit, pour connaître et être d'être préservé dans cette parole, ne verra jamais la mort. Il est déjà passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Donc, il y a la mort physique, il y a la mort spirituelle, mais il y a aussi la mort éternelle. Et c'est ce que, dans Apocalypse, chapitre 20 et le verset 14, est appelé la seconde mort qui attend tous ceux qui ne sont pas à Christ. La première mort, c'est d'être condamné en Adam. La mort spirituelle. Et ceux qui ne sont pas en Christ, ils vivent physiquement pour un temps et ils doivent mourir physiquement. Ça, c'est à cause du péché. Mais il y a cette seconde mort qui est décrite ici dans le verset 14. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. L'étang de feu représente la justice de Dieu. Que ceux-là seront subis à la justice de Dieu pour l'éternité. Et c'est une mort éternelle, où ils ne peuvent jamais se repentir. Et ils passeront l'éternité en outrance contre le Dieu souverain qui les a placés là. Justement, parce qu'ils sont des pécheurs. On ne peut pas accuser Dieu d'injustice en quoi que ce soit. Nous tous, nous méritons cette seconde mort, mais si nous sommes sauvés, c'est par la grâce de Dieu et c'est parce que Christ a porté déjà ce jugement. Alors, verset 51, cette assurance est pour ceux pour qui Christ est venu dans le monde. Il garde sa parole. Christ leur a donné le pouvoir de le connaître et l'entendement. Ils sont nés sourds dans ce monde spirituellement, mais donnez maintenant des oreilles pour entendre. Il ne verra jamais la mort. Ça, c'est la grâce de Dieu. Voilà. Donc, voilà la réponse de Christ à cette première question d'accusation. Du fait qu'il était un Samaritain et qu'il avait un démon. Maintenant, la deuxième question, et encore, tout ce que Christ leur disait tombait sur des oreilles sourdes. On ne peut pas penser alors parce que c'est parce que les hommes étaient plus puissants que Christ. Non, tout se déroule selon la volonté de Christ. Christ avait le pouvoir de leur donner des oreilles pour entendre, mais leur jugement était que Christ ne leur donnait pas ce pouvoir. Donc, c'est pourquoi ils continuent à réagir. Ils continuent à parler. Maintenant, lui dit les Juifs, nous connaissons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi, et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Et voilà leur question d'accusation, verset 53. Es-tu grand, es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Encore, ils ne posent pas la question pour savoir, mais pour supposer. Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Qui prétends-tu être? Donc, les deux questions, la deuxième et la troisième question, sont posées l'une après l'autre ici. C'est question d'accusation. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Bon, encore, nous qui avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons répondre oui, il est plus grand qu'Abraham qui est mort. Parce que Christ est depuis l'éternité. Mais nous croyons cela parce que ce même Esprit de Christ nous a été révélé et nous a révélé sa gloire et sa personne. Donc, pour nous, c'est une question folle, mais eux, ils posent cette question parce qu'ils sont encore morts dans leur péché. Et puis,
poser la question à Christ, qui prétends-tu être? Il n'y a pas de prétence avec Christ. Il est en train de déclarer qui il est. Mais eux, leur question d'accusation, c'est qui prétends-tu être? Encore, l'opposition se manifeste toujours par rapport à la personne de Christ et qui il est. Et c'est par là que nous pouvons savoir si quelqu'un a été humilié devant Christ déjà par l'Esprit ou non. Alors, verset 54, Jésus répondit. Encore, imaginons un défendant, les défendants en train de poser ces questions au juge. Et c'est le juge qui parle ici. Christ en tant que juge, verset 54. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Ça, c'est une bonne réponse que nous pouvons donner aux gens, parce que lorsque nous prêchons l'exclusivité du salut en Jésus-Christ, et nous disons qu'en dehors de lui, personne n'est sauvé, quelle est la réaction souvent de ceux qui ne sont pas encore à Christ? Peut-être que Christ a payé leur dette, peut-être qu'ils sont élus, mais ils sont encore dans les ténèbres. Mais quelle est la réaction de ceux-là? Combien de fois les gens m'ont dit, ah, donc vous croyez que vous seul vous êtes sauvés alors, puisque vous ne croyez pas que nous sommes sauvés? Ils répondent toujours en réagissant de cette manière. Ils ont fait la même chose avec Christ. Christ dit, c'est mon Père qui me glorifie. Et exactement comme le cas de Christ, nous pouvons dire de nous-mêmes que nous ne sommes rien à part le choix de Dieu, le fait que Dieu lui-même nous glorifie en Christ. Voilà notre gloire. Ce n'est pas une gloire que nous prenons de nous-mêmes. Comme Christ, il dit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. Christ n'est pas venu à l'aventure pour chercher à mener une campagne comme les politiciens font pour gagner le plus grand nombre d'adeptes. Non. Il est venu uniquement pour glorifier son Père, parce que c'est son Père qui a glorifié le Fils. Il dit, c'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Vous dites être votre Dieu. C'est facile pour les gens de dire que Dieu est leur Père, mais que dit la Bible là-dessus? Ce n'est pas tous ceux qui se réclament enfants de Dieu qui sont enfants de Dieu, pour le reconnaître. Donc, dans le verset 55, il dit, et que vous ne connaissez pas, brutal, mais vrai, le fait que vous réagissez de la manière que vous réagissez, cela démontre que vous ne connaissez pas Dieu. Et nous pouvons dire la même chose. Si les gens s'opposent à ce message qui donne la gloire exclusivement à Christ, et que le salut dépend uniquement de sa vie d'obéissance. C'est pas notre vie d'obéissance, mais sa vie d'obéissance et sa mort efficace. Ceux qui s'opposent à lui de cette manière ne connaissent pas Dieu. Les gens veulent prétendre qu'on peut tous connaître Dieu de notre manière. C'est comme j'ai lu quelque part, quelqu'un dit, c'est comme une montagne que les gens sont en train de grimper, chacun de son côté, mais de toutes les façons, on va tous arriver au bout. Non. Il n'y a qu'une seule voie, un seul chemin, qui est Christ. Et non seulement il n'est pas venu pour montrer le chemin, il est le chemin. Nul ne peut venir au Père que par lui. Cela veut dire par son autorité. Et par sa mort. Alors, encore, Christ étant la vérité, dit exactement la vérité. Vous ne connaissez pas Dieu. Pour moi, je le connais, Et si je disais que je ne le connais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Mais je le connais et je garde sa parole. Et il dit, je voudrais revenir sur ça la prochaine fois parce que notre temps passe, mais il dit, Abraham, votre père, dans le sens physique, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Ça, c'est vraiment une déclaration très importante, surtout au sujet de ceux de l'Ancien Testament qui vivaient avant la venue du Christ. Quel était leur état? La Bible est claire que Dieu a mis le même esprit en eux qu'il place en nous aujourd'hui qui vivons de ce côté de la croix. Il n'y a qu'un seul sauveur, un seul sacrifice auquel ceux qui sont enfants de Dieu regardent par l'Esprit de Dieu. Et non seulement regarder, mais comme Abraham se réjouisse de voir qui il est et pourquoi il est venu et ce qu'il a accompli. Pour Abraham, il regardait à celui qui devait venir, nous regardons à celui qui est venu. Mais la foi a un seul objet, et c'est ce Christ, et Christ crucifié. Nous allons revenir là-dessus la prochaine fois. Et donc, nous arrivons à la quatrième question d'accusation. Encore, mais les gens ne peuvent pas se taire. Et c'est toujours comme ça, ils ont toujours quelque chose à dire, ou contredire la vérité. Verset 55, les Juifs lui disent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Alors, ici, c'est mis comme un point d'exclamation, mais en réalité, c'est une manière de poser une question. Et c'est la quatrième question. Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Nous avons déjà vu qu'il est le Jéhovah de l'Ancien Testament. Quand il dit « je suis », et notez bien, ce n'est pas une faute grammatique. Avant qu'Abraham fût, je suis, il n'a pas dit « j'étais », mais « je suis ». Il a dit ça précisément parce que dans l'original, ça c'est le nom pour Jéhovah, « je suis ». Là-dessus, verset 59, ils prirent des prières pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Il ne pouvait pas mettre la main sur lui parce que ce n'était pas de cette manière qu'il devait mourir. Alors il continuait à combattre la réalité, la vérité que Jésus-Christ est Dieu. Et heureusement qu'il est Dieu. Parce que s'il n'est pas Dieu, il n'est pas le Sauveur. Alors qu'il nous donne par sa grâce des oreilles pour entendre. Et que le Seigneur bénisse ce que nous venons d'entendre. Amen.